Médien.
Média. Podcast.
Médien.
La littérature a rendez-vous à Tanger la semaine prochaine. Deux événements au même moment. Littératures itinérantes, après Salé, Casablanca et Marrakech. Cet événement fait escale. Cette année, dans la ville du Détroit, 40 écrivains à la rencontre de leurs lecteurs. Ce sera samedi sur l'esplanade de la Marina. Le même jour va s'ouvrir plus haut dans la ville, au palais Moulay Hafid, le printemps du livre et des arts, organisé comme chaque année par l'Institut français. Et comme les organisateurs de ces deux événements sont intelligents, pas de concurrence, ils travaillent ensemble. Des navettes seront là pour permettre au public de circuler entre les deux endroits. Ce dimanche, on donne la parole à l'un des écrivains annoncés. C'est l'un des écrivains attendus. Il s'agit d'Éric Fotorino. Son portrait avec Grégoire Morelli.
Ses premières armes dans le journalisme, Éric Fotorino les a fait au sein du quotidien Libération. Puis il rejoint le journal Le Monde. Il a à peine 26 ans et va découvrir les continents, l'Afrique, les pays d'Europe de l'Est après la chute du mur, l'Amérique latine. Grand reporter, il gravit tous les échelons jusqu'au sommet. Directeur de la rédaction, puis président du directoire du journal Le Monde. Au tournant des années 2010, la presse écrite est en crise. Internet a déstabilisé tout le secteur. Le journaliste vient de quitter le journal. Pour lui, la presse doit se réinventer. Ça tombe bien, Éric Fotorino est une machine à idées. Il imagine et lance de nouveaux formats. Le 1, une sorte d'ovni, un seul thème choisi dans l'actualité chaque semaine, à travers les regards de chercheurs, d'artistes, d'écrivains. Zéro pub, le journal tient en une seule feuille de papier plié. Et puis deux beaux trimestriels, America et Zadig, et plus récemment Légende. Homme de presse, homme de lettres, Éric Fotorino écrit aussi de nombreux romans où il se livre. Une histoire familiale mouvementée, des zones d'ombre, des doutes, des interrogations, on va en parler maintenant. C'est aussi et enfin un passionné de cyclisme. Chaque week-end, il enfourche son vélo ou il part courir sur la route. Éric Fotorino a du souffle, de l'endurance et il est l'invité de Bain de Culture cette semaine.
Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour.
Journaliste, écrivain, on vous attend la semaine prochaine à Tanger pour le printemps du livre et des arts. Éric Fotorino, vous avez un lien direct avec le Maroc. Vous avez été adopté par Michel Fotorino, un pied noir de Tunisie. Mais votre père naturel est marocain, c'est un juif marocain de Fès. Ce père biologique, vous avez toujours su qu'il existait ?
Non, j'ai longtemps cru, parce qu'on me disait que je n'avais pas de père ou qu'il était mort. Tout ça était quand même assez vague. Et un jour, comme les secrets familiaux ne durent jamais toute la vie, une indiscrétion a fait que j'ai su que j'avais un père qui était un homme du Maroc, de Fès, qu'il était médecin et j'ai commencé à le chercher quand j'avais 17 ans.
Quand votre mère rencontre votre père biologique, on est dans la France des années 50, et dans la société d'alors, imaginez une jeune femme avec un étranger, avec un juif marocain, c'est compliqué.
Bah oui, c'était vraiment, j'allais dire que je suis le fruit d'une guerre de religion entre une famille française très catholique, très traditionnelle, et puis le fils d'une famille juive du Maroc, juif fassi. Et je pense que ni l'une ni l'autre ne souhaitait que une mésalliance de cet ordre. Donc, ma grand-mère a fait en sorte que mon père, qui étudiait la médecine à Bordeaux, s'en aille. Et d'ailleurs, il est parti, il a terminé à Nancy, et avant ensuite de regagner le Maroc.
Ce père Moshe, vous avez 17 ans quand vous le rencontrez pour la première fois. Et à la mort de votre père d'adoption, Michel, dont vous portez le nom, vous voulez en savoir davantage sur lui. Vous allez partir sur les traces de son enfance. Vous vous rendez à Fès. De ce voyage, vous allez en faire un roman, Le Marcheur de Fès. C'était un besoin pour mieux comprendre qui il était, pour mieux comprendre qui vous étiez vous-même.
Ah oui, je crois que c'est vraiment une tentative d'élucidation qui je pense, occupe l'essentiel de mon travail littéraire depuis 30 ans. Savoir qui je suis et qui sont les miens, à qui je peux dire que les miens sont les miens. Et donc, avant d'écrire Le Marcheur de Fès, j'ai écrit avec lui, je l'appelais Maurice d'ailleurs, hein, il s'appelle Maurice Moshe, mais moi je l'ai toujours appelé Maurice, pas Moshe.
D'accord.
Et on a écrit un texte qui s'appelle « Question à mon père », où j'essaie de comprendre qui il est, je lui demande qu'est-ce que c'est qu'être juif, parce que je ne savais pas très précisément. Et il me répond en cinq mots, il me dit « Être juif, c'est avoir peur ». Et j'ai essayé de comprendre d'où venait l'origine de cette peur, et c'est ce qui m'a amené quelques années plus tard à Fès. J'aurais aimé aller avec lui, mais il était trop malade et ses jambes ne le suivaient pas. Donc j'ai été un peu son envoyé, le marcheur de Fès, ça devait être lui et ça a été moi.
Vous parlez de cette peur dont vous parle votre père quand vous lui demandez effectivement c'est quoi être juif, c'est avoir peur. Quand il était médecin, vous racontez qu'en rentrant en bloc opératoire, quand il travaillait, il avait toujours son passeport sur lui.
Oui, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris et même un peu effrayé d'imaginer qu'il était dans une telle intranquillité de son identité à lui, du fait qu'il était juif, de penser à des choses pareilles, de se dire qu'il fallait toujours qu'il ait ses papiers d'identité. Et d'ailleurs, lorsqu'il a décidé de quitter le Maroc en 1976, je crois, non, je vais vous dire une bêtise, en 1973, il a quitté le Maroc. Et il n'a prévenu personne, il est parti du jour au lendemain avec sa famille.
Lui-même vous conseille de ne jamais faire état de vos origines.
Oui, c'était curieux, surtout lorsque je suis devenu directeur du journal Le Monde. Il était à la fois heureux et en même temps un peu apeuré, en disant, mais tes origines, il faut les cacher parce que tu pourrais être embêté. Et d'ailleurs, c'est vrai que enfin, je n'ai jamais été ni physiquement. Ni j'allais dire intellectuellement, on m'a pas attaqué sur une judéité qui n'est pas d'ailleurs complètement complète. Mais en revanche, c'est vrai que certains sites d'extrême droite se sont empressés d'aller chercher tout ce qui me rattachait au judaïsme.
Pour l'extrême droite, on devient juif assez rapidement.
Oui.
Pour parler de ce voyage que vous aviez fait à Fès et dont vous avez tiré ce roman, Le Marcheur de Fès, vous le dites, vous auriez dû faire ce trajet, ce parcours initiatique avec votre père. Il était trop malade. Cela vous a pas empêché de rencontrer ses proches. Vous dites que vous avez compris qu'ils étaient frappés par la ressemblance physique entre vous et votre père et que quand ils vous parlaient, en fait, c'était à votre père qu'il parlait à travers vous.
Oui, c'était troublant, notamment un de ses amis qui s'appelait André Tobali, qui est décédé lui aussi maintenant, à Fès. Et la première fois que j'ai sonné chez lui, que j'étais dans l'encadrement de sa porte, et il y avait une pénombre, et il est resté interdit pendant quelques secondes, et il a cru qu'il voyait un revenant, mais qui avait gagné 30 ans ou 25 ans. Donc, effectivement, il y avait cette ressemblance physique assez troublante, à tel point d'ailleurs que lorsque mon livre Question à mon père est paru dans la collection de poche Folio. J'avais mis une photo de Maurice Mamman et certaines de ses patientes l'ont reconnu et m'ont écrit en disant mais il m'a accouché il y a 20 ans, il y a 30 ans, notamment à Rabat, etc. Donc, c'est vrai que ces liens se sont manifestés à travers des images de lui ou de moi en reflet de lui de façon assez troublante.
J'essaie de vous imaginer parcourir le Mellah à Fès, de parcourir la Médina. C'est une ville qui, de toute façon, a une âme, une identité tellement forte, tellement particulière. Ça a dû être un voyage, j'imagine, extrêmement fort pour vous-même. Pour une personne lambda, rentrer dans la vieille ville de Fès, c'est pas neutre. Mais vous, en plus, vous y avez tout ce passé en vous.
Oui, c'est vrai, il y avait une sorte de double épaisseur, quoi. Il y avait le présent de ce que je voyais, que ce que je découvrais. Et puis, il y avait effectivement ces ombres de l'enfance de mon père, de la jeunesse de mon père. Et donc, j'essayais de l'imaginer à la fois dans le Bélam, mais aussi dans la Médina, dans tous ces endroits. Je suis allé vers la Karaouine, je suis allé dans ces rues, dans ces ruelles où il y a notamment les teinturiers avec ces odeurs et ces couleurs. Donc voilà, je m'étais immergé complètement et je me souviens aussi d'être allé dans le quartier de ce qu'il appelait de l'Européenne, qui était un bâtiment moderne à cette époque, très haut, à Fès, où sa famille s'était installée. Et c'est là qu'un jour, après la mort accidentelle de sa grande sœur, il a jeté du haut de cet immeuble son écharpe de prière et qu'il a d'une certaine manière non pas renoncé au judaïsme, mais renoncé à la foi. Et donc, j'ai essayé, à travers ce qu'il m'avait raconté de sa vie, de prendre mes marques, mes points de repère dans ces rues, dans ces quartiers, et c'était évidemment assez fascinant.
Éric Fautorino, 17 ans, c'est l'âge auquel vous avez eu votre premier contact avec votre père naturel, Maurice. 17 ans, c'est également l'âge qu'à votre mère, lorsqu'elle vous met au monde, vous êtes l'aîné de la famille. Et
Oui.
autant vous avez écrit tôt sur vos deux pères, autant pour votre mère, cela va prendre beaucoup plus de temps. Vous avez fini par le faire. Le livre est sorti il y a 5 ans. C'est également un roman, mais il y a beaucoup de votre histoire. Ce livre, c'était un peu l'ouvrage impossible à faire pour vous avant sa sortie. Il y a eu 11 versions, vous dites.
Oui, ça a été vraiment un accouchement très difficile. D'abord, comme vous le dites, pendant longtemps, j'ai pensé que je n'écrirais pas sur ma mère, qui était un peu comme un profil perdu dans la plupart de mes romans. Et puis, j'ai fini par... non pas que la littérature doive être juste ou injuste, mais je me suis dit qu'il y avait quand même un déséquilibre, même de compréhension par moi-même de cette identité un peu trouble et troublée. Et donc, je me suis attelé à essayer de comprendre quel était ce lien que j'avais entretenu avec cette jeune femme qui avait 17 ans à ma naissance, et au fur et à mesure, et pour découvrir d'une certaine manière que je n'avais jamais considéré exactement comme ma mère. Et si vous voulez, en septembre prochain, j'ai bouclé complètement la boucle parce que ma mère avait dû abandonner un autre enfant après moi. Et j'ai écrit un texte qui paraîtra au mois de septembre, qui s'appelle « Mon enfant, ma sœur », et qui complète, j'allais dire, tous ces livres autour des pères et de ma mère. Il y avait encore un fantôme dans cette histoire qui était une petite fille que j'ai retrouvée, que j'ai fini par retrouver l'an passé et dont je raconte... Le lien avec moi, avec nous, dans ce texte.
Quand vous êtes né, c'était difficile déjà pour votre mère. Sa famille a fait pression pour qu'elle vous abandonne. Au final, oui. Ça a été cette petite fille, quelques années plus tard, dont vous parlez.
Oui.
Vous avez appris ce lourd secret familial, ce non-dit. Oui. 50 ans plus tard, quand votre mère avait réuni une petite réunion de famille, comme ça, avec ses enfants. Et, oui. Évidemment, on imagine votre trouble, vos interrogations par la suite. Vous êtes dit notamment, mais au final, est-ce que ça aurait pas pu être moi? Et est-ce que ma mère n'aurait pas pu préférer m'abandonner moi que ma sœur? Enfin, c'est des questions après qui vous taraudent.
Oui, c'est juste, vous avez très bien lu, c'est sûr qu'un roman, c'est toujours des questions. Hein. C'est Milan Kundera qui disait « un roman n'a pas réponse à tout, il a question à tout ». Et c'est vrai que le questionnement qui a surgi au moment où j'écrivais 17 ans et que ma mère, avec mes frères, nous a annoncé qu'elle avait eu cette petite fille et qu'elle avait dû l'abandonner aussitôt ont surgi tellement de questions que j'ai même dû encore réécrire ce livre 17 ans, parce que forcément la focale avait changé, mon regard sur ma mère était forcément modifié. Et ensuite, je me suis interrogé sur effectivement cette femme qui disait qu'elle avait trois garçons, mais qui ne disait jamais qu'elle avait eu une fille, et pour cause, elle ne pouvait pas le dire, mais elle le savait, et donc j'ai essayé de comprendre ce que ça pouvait faire pour une mère d'avoir comme ça dû rayer complètement de sa vie. Mais pas de sa mémoire, mais pas de son esprit, mais pas de son cœur, un enfant qu'elle avait mis au monde sans jamais pouvoir même le toucher ou voir son visage.
Alors, il y a ces secrets dans votre famille, on n'en parle pas, il y a un malaise, vous le percevez de façon plus ou moins claire, de façon plus ou moins consciente. Votre mère abandonnée par ses parents, votre mère contrainte ensuite elle-même à l'abandon, cela a eu un impact sur vous? Vous dites que dans votre vie, vous ne vous sentiez jamais vraiment à votre place, hein.
Oui, c'est vrai que c'est cette espèce de, j'allais dire, de jeune abandonné qui traverse les générations de cette famille. Il y a aussi pas mal de suicides. Donc, j'ai eu le sentiment d'être un peu dans un champ de mine où il y avait à la fois des écueils, il y avait des choses dangereuses qui nous entouraient, qui m'entouraient et qui créaient évidemment un sentiment d'insécurité et un mal-être lié au fait où on ne sait pas exactement où on doit être. Puisque finalement naître n'était pas vraiment la garantie qu'on allait vivre une vie paisible et heureuse. Et ça, je crois que ça a été une interrogation qui me poursuit encore. C'est où est ma place? Est-ce que je sais la prendre? Est-ce que finalement il n'y a pas toujours chez moi une tentation de disparition? Et je crois que tous ces petits débats intérieurs, disputes intérieures, elles sont largement conditionnées, liées au fait qu'il y a eu ce questionnement implicite finalement depuis ma naissance.
Tout débute dans l'enfance, il y a des répercussions après jusqu'à notre mort. Vous dites que le remède pour vous, comme pour beaucoup de gens, hein, ça a été l'écriture. Le roman sauve la vie, c'est ce que vous dites.
Oui, mais je pense qu'il m'a vraiment sauvé la vie au sens où je pense que la fiction m'a permis de découvrir le réel, de à la fois de l'éclairer, de me confronter à lui, de l'interroger, et probablement que j'aurais été un bon gibier de psychanalyste si je n'avais pas écrit, peut-être que ça m'aurait aussi aidé, sûrement même, mais en tout cas je me suis fait mon analyse moi-même, et probablement que s'il n'y avait pas eu ce fil tendu de l'écriture au cours des années, même maintenant des décennies, ma vie aurait été très différente et j'imagine beaucoup plus lourde à porter avec ces ombres.
Vous avez épousé le métier de journaliste, vous avez décidé d'écrire sur des choses pas seulement intimes, sur des choses qui nous dépassent, qui vous dépassent. Vous écrivez des articles, des romans, mais pas que. Dans votre dernier manuscrit, Éric Fotorino, vous parlez des migrants, de ce que l'on appelle les drames en Méditerranée, le trafic d'êtres humains, les naufrages. Ce livre s'appelle « La pêche du jour ». C'est un petit texte, une soixantaine de pages. Cela se passe sur une île en Grèce, c'est un pamphlet.
Oui, c'est un texte qui a surgi, qui a vraiment jailli un soir de juin, il y a deux ans, 2021. Et probablement, je pense que 10 minutes avant de l'écrire, je n'avais pas en tête que j'allais l'écrire. Donc c'est quelque chose comme une impulsion et qui ensuite est devenu une lecture au théâtre que le comédien Jacques Weber a repris pendant des mois et qui va encore interpréter cet été à Avignon. Mais c'est vrai que dans mon esprit, il n'y avait pas de préméditation. C'était vraiment l'écriture comme étant une sorte de cri comme ça, spontané. Et j'ai voulu là, à la fois probablement dire mon impuissance, l'impuissance qu'on a quand on est journaliste, même si on témoigne, même si on fait des portraits, des entretiens, des reportages, tout ce qu'on veut, finalement, on ne change pas vraiment la réalité. Et puis aussi, une colère face à nos États européens qui se calfeutrent derrière leurs frontières et qui laissent finalement à la fois des pays tortionnaires comme la Libye ou la mer, tout simplement, à faire le sale boulot, c'est-à-dire d'éliminer des gens qui veulent simplement vivre, survivre, et qui ne peuvent plus dans leur pays.
Il y a une sorte d'impuissance par rapport à ces drames. Vous le dites, écrire des articles, ça permet d'informer, mais pas forcément de changer les choses. Un livre, un texte, comme vous l'écrivez, j'imagine qu'il y a... Vous éprouvez le même peut-être sentiment d'impuissance, mais en tout cas, c'est un besoin. Vous aviez besoin d'écrire cela, de coucher cela sur le papier.
Oui, c'est ça. Ça obéit à une forme de nécessité, d'urgence, d'employer les mots un peu différemment, de manier justement des images qui sont beaucoup moins consensuelles et qui choquent, qui peuvent heurter. Non pas que j'avais, encore une fois, être prémédité, c'est venu comme ça. D'une certaine manière, c'est aussi un peu le sortilège ou la grâce de l'écriture. Et il faut pas trop savoir pourquoi, mais quelquefois, l'écriture vient d'une certaine manière, de la même manière que ce roman dont je parlais, Mon enfant, ma sœur, est un long poème en prose. Je n'ai pas su l'écrire autrement. Il y a la pêche du jour, c'est ce dialogue entre un drôle de pêcheur et un drôle de client. Et qui montre que finalement le bien et le mal sont également répartis. Il n'y a pas un qui incarne le mal, l'autre qui incarnerait le bien, mais l'un et l'autre, elles sont tissées de ces deux tranchants qui, évidemment, font frémir quand on les écoute.
Éric Fotorino, grand journaliste, votre parcours au sein de la presse en France est impressionnant, on l'a rappelé au début de cette émission. Grand écrivain également, nous aurons la chance de vous accueillir la semaine prochaine au Maroc, le dimanche 4 juin, au Printemps du Livre et des Arts. La rencontre aura lieu à 16h30, elle sera animée par Selma Bensouda au Palais Moulay Hafid. Merci beaucoup Monsieur Fotorino de nous avoir répondu ce dimanche dans Bain de Culture.
Merci à vous, c'était très intéressant de répondre à vos questions, merci.
Midi. Bain de culture avec David Labeau.
La mode en capitale, c'est le nom de l'événement qui se tient depuis ce week-end à Rabat. La mode marocaine à l'honneur avec des expositions, des défilés. Honneur notamment à Fadil Al-Ghadi, spécialiste de la broderie artisanale. Une exposition lui est consacrée dans l'espace expression CDG à Rabat. Amine Bouzhaba, le commissaire de cette exposition.
L'exposition propose une immersion dans l'univers de Fadil Al-Ghadi. C'est pas tant une exposition de modèles, mais une exposition qui nous décrit un peu l'univers créatif de Fadil Al-Ghadi. Vous savez, Fadela a commencé il y a plus d'une vingtaine d'années. Elle a été l'une des premières, sinon la première, à avoir fait un choix très audacieux, qui est celui de miser sur quelque chose de très, très, très important et fondamental dans l'artisanat marocain, qui est l'art de la broderie, tout en le propulsant dans une modernité, une contemporanéité absolue. C'était il y a plus de 20 ans. Ce travail-là a fait sa marque de fabrique et a fait que, depuis, elle a fait tous les catwalks du monde et les Fashion Week, et c'est peut-être la créatrice marocaine la plus sollicitée à l'international. Donc c'est un peu cet esprit-là que propose l'exposition, une espèce de déambulation entre ses créations, entre son univers intime et entre son atelier.
Voilà, une exposition visible ces deux prochaines semaines à l'espace Expression CDG, place Moulay Hassan de Rabat. Et puis donc le week-end prochain, on se retrouve tous à Tanger pour le printemps du livre et des arts au Palais Moulay Hafid et pour littératures itinérantes à la Marina. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Must try to ignore that it means more than
there's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do.